1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Alors Samuel dit, « L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel ? Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. » Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, dans notre méditation, on va poursuivre, par la grâce de Dieu, la série que nous on a commencé sabbat dernier sur les leçons tirées de la vie de Saül. Donc la semaine dernière, on a exploré, vous vous souviendrez, la leçon de l'humilité que nous tirons de la vie et des expériences de Saül telles que nous les trouvons dans la parole de Dieu. Samuel disait à Saül, « N'est-il pas vrai que lorsque tu étais petit à tes yeux, tu devins chef des tribus d'Israël et que l'Éternel t'a oint pour être roi sur Israël ?» Nous avons vu que lorsque Saül était petit à ses propres yeux, était humble et s'humiliait sous la main puissante de Dieu, il fut oint roi sur Israël. Mais que lorsqu'il perdut cette humilité et qu'il prit la grosse tête, il s'enorgueilla de tous ses exploits qu'il avait accomplis, quoiqu'ils fussent accomplis avec l'aide présente de Dieu, quand il oublia ces choses-là, alors il tomba. Comme nous avons vu, l'orgueil précède la ruine. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, ce que l'on veut encore une fois, c'est tirer les leçons de la vie de Saül, notamment dans la présomption de Saül à Gilgal. Vous y allez pour cela dans 1 Samuel chapitre 13. Dans 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 8. Donc ici, Saül s'est retrouvé confronté à une armée immense de Philistins. Il avait entrepris plusieurs batailles et combats contre les nations aux alentours. Il avait obtenu des victoires. Et le mot s'était passé qu'il avait l'ascendant ainsi sur les contrées autour de lui. Et donc les Philistins se sont rassemblés pour faire la guerre à Israël. Et maintenant qu'il se trouvait ainsi confronté à une nouvelle armée, cette fois-ci beaucoup plus nombreuse que celle qu'il avait précédemment combattue, nous lisons au verset 4, « Ainsi, tout Israël a entendu dire, Saül a battu la garnison des Philistins, et même Israël est en mauvaise odeur parmi les Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Cependant, les Philistins s'assemblèrent pour combattre contre Israël avec 30 000 chars et 6 000 cavaliers et un peuple nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Ils montèrent donc et campèrent à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Or, les Israélites virent qu'ils étaient dans une grande extrémité. Car le peuple était consterné, et le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les lieux forts et dans les citernes. Et les Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Cependant, Saül était encore à Gilgal et tout le peuple le suivait en tremblant. Donc ça, c'est le contexte. Le contexte qui va maintenant nous permettre d'être propulsés dans les leçons que nous pouvons tirer du vécu et des fautes de Saül, du roi Saül. Verset 8. Et il attendit 7 jours selon le terme marqué par Samuel. Mais Samuel ne venait point à Gilgal, et le peuple s'éloignait d'auprès de Saül. Donc ici, vous faites un retour sur image vis-à-vis de ce que nous venons de lire. Il était en train d'attendre 7 jours. Pourquoi? Parce que quand il fut premièrement oint par Samuel, nous lisons au chapitre 10, verset 8, que Samuel lui avait fourni des prédictions très précises vis-à-vis des événements futurs dont sa vie serait remplie. Et notamment ici, dans 1 Samuel chapitre 10, verset 8, il lui avait dit, « Puis, quand ces signes te seront arrivés, puis tu descendras devant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de prospérité. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et je te déclarerai ce que tu devras faire. » Et ici, vous voyez, maintenant que nous revenons dans notre texte, que Saül a bien pris en compte ce message que lui avait adressé Samuel. Donc il n'y avait pas une faute de mémoire de sa part, il se souvenait précisément de cette prédiction lorsqu'il allait se retrouver confronté à une épreuve sans précédente et qu'il devrait faire preuve de patience et de foi. Tu m'attendras 7 jours. Et donc il attendit 7 jours, selon le terme marqué par Samuel, 1 Samuel 13, verset 8. Et le peuple, mais Samuel ne venait point à Gilgal et le peuple s'éloignait d'auprès de Saül. Alors Saül dit, après avoir attendu 7 jours, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de prospérité. Et il offrit l'holocauste. Or, dès qu'il eut achevé d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Mais Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Quand j'ai vu que le peuple s'en allait d'avec moi, et que tu ne venais point au jour assigné, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, j'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal. Et je n'ai point supplié l'Éternel, et après m'être ainsi retenu, j'ai offert l'holocauste. » Alors Samuel dit à Saül, « Tu as agi follement. Tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, car l'Éternel eut maintenant affermi ton règne sur Israël à toujours. Mais maintenant, ton règne ne sera point stable. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le conducteur de son peuple, parce que tu n'as point gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Nous voyons ici un événement tragique dans lequel Saül a révélé qui il était et à travers lequel nous tirons des leçons, des échecs et des fautes du roi Saül. Et pour cela, je vais attirer notre attention vers les paroles de l'inspiration qui éclairent la situation tragique que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Je le lis dans le livre Patriarches et Prophètes à la page 606 au paragraphe 3 et 4. Quand Saül fut oint roi sur Israël, il reçut de Samuel des directives explicites concernant la voie à suivre dans ces circonstances. Ces circonstances-là auxquelles il était maintenant confronté face à l'armée des Philistins. Deux points. Tu descendras devant moi à Gilgal et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de prospérité. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et je te déclarerai ce que tu devras faire, disait le prophète de Dieu. Saül attendit plusieurs jours sans faire de grands efforts pour encourager le peuple à mettre sa confiance en Dieu. Avant l'expiration du délai fixé par le prophète, il commença à s'impatienter et permit aux circonstances éprouvantes de le décourager. Au lieu de chercher fidèlement à préparer le peuple pour le sacrifice que Samuel allait présider, il se livra à l'incrédulité et à l'appréhension. La tâche qui consistait à rechercher Dieu par le sacrifice était des plus solennelles et des plus importantes. Et Dieu exigeait que son peuple examine son cœur et se repente de ses péchés afin que l'offrande présentée lui soit acceptable et que sa bénédiction puisse accompagner leurs efforts pour conquérir l'ennemi. Mais Saül était devenu agité et le peuple, au lieu de se fier à l'aide de Dieu, se tournait vers le roi qu'il avait choisi pour le mener et le diriger. Est-ce que vous avez relevé les éléments qui caractérisaient cette faute de Saül? Il attendit plusieurs jours, mais sans faire de grands efforts pour encourager le peuple à mettre sa confiance en Dieu. Autrement dit, il attendit à la lettre, conformément à l'ordre que Samuel lui avait dit d'attendre, mais il ne joint pas cet ordre à tous les autres ordres qui étaient contenus dans la parole de Dieu et qui l'encourageaient, qui l'exhortaient à faire preuve de foi, à faire preuve d'amour envers Dieu, à aimer Dieu de tout son cœur. Non, il s'accrochait simplement à la lettre de la loi. Et pendant tous ces jours-là d'attente, il ne fit pas de grands efforts pour encourager le peuple à mettre sa confiance en Dieu. Au lieu de chercher fidèlement à préparer le peuple pour le sacrifice que Samuel allait présider, il se livra à l'incrédulité et à l'appréhension. De telle sorte que cette attente devint, par cette même occasion d'attente, une pierre d'achoppement en ce que ce n'était qu'un rite pour lui. Et il n'y avait pas joint l'amour du service désintéressé et dévoué à Dieu. Et donc par la même occasion qu'il attendait, il était en train de se fourvoyer. Par la même occasion qu'il obéissait à la parole, il y désobéissait. La tâche qui consistait à rechercher Dieu par le sacrifice était des plus solennelles et des plus importantes et Dieu exigeait que son peuple examine son cœur et se repente de ses péchés afin que l'offrande présentée lui soit acceptable et que sa bénédiction puisse accompagner leurs efforts pour conquérir l'ennemi. Mais Saül n'y avait pas joint cette partie essentielle, il y avait seulement vu la partie formaliste, la partie légale de l'exigence divine telle qu'elle lui avait été communiquée par Samuel juste après qu'il fut oint roi. Mais Saül était devenu agité et le peuple, au lieu de se fier à l'aide de Dieu, se tournait vers le roi qu'il avait choisi pour le mener et le diriger. Je continue, page 607. Dans une impatience grandissante, Saül attendait l'arrivée de Samuel et attribuait la confusion, la détresse et la désertion de ses troupes à l'absence du prophète. Le moment fixé fixé était venu, mais l'homme de Dieu n'avait pas immédiatement paru. Et donc Saül, vu qu'il était agité et impatient, il n'était pas satisfait. Et au lieu d'utiliser cette opportunité pour faire preuve de foi, il laissa la place à l'incrédulité, à l'appréhension et au murmure, en attribuant à l'absence du prophète toutes ces choses qui n'étaient en fait que le résultat de son manque de foi, de son manque d'amour pour Dieu, de son manque de consécration dans cette attente pour le sacrifice, l'Holocauste. Le moment fixé était venu, mais l'homme de Dieu n'avait pas immédiatement paru. Hein, Dieu avait permis, je le lis d'ailleurs, la providence de Dieu avait retardé son serviteur. Pourquoi ? Pour donner à Saül une opportunité de faire preuve de patience et de foi. Mais l'esprit agité et impulsif de Saül n'acceptait plus d'être retenu. Sentant qu'il fallait faire quelque chose pour calmer les craintes du peuple, il décida de convoquer une assemblée pour un service religieux et d'implorer l'aide divine par un sacrifice. Dieu avait ordonné que seules les personnes consacrées à cette fonction puissent présenter des sacrifices devant lui, mais Saül donna l'ordre « Amenez-moi l'Holocauste ». Et, armé de pied en cap, il s'approcha de l'autel et y offrit le sacrifice devant Dieu. Et maintenant, je lis encore une fois pour étayer cette description de ce manque de foi, de ce caractère de Saül dont nous essayons ici de tirer des leçons, dans le commentaire biblique à la page 306 et 307. En retenant Samuel, Dieu avait l'intention de révéler le véritable cœur de Saül, afin que les autres puissent savoir comment il se conduirait en cas d'urgence. Et c'était bel et bien un cas d'urgence. Il s'agissait d'une situation éprouvante, mais Saül n'obéit pas aux ordres. Il était éprouvé par ces circonstances déréglées, comme on pourrait dire. Mais dans cette épreuve, il n'obéit pas aux ordres malgré cette excuse semblante de se détourner de l'ordre. Parce qu'il lui semblait que l'ordre était annulé parce que la promesse du prophète n'avait pas été accomplie juste au moment précis auquel il s'attendait qu'elle s'accomplisse. Il s'agissait d'une situation éprouvante, mais Saül n'obéit pas aux ordres. Il estimait que le choix de la personne s'approchant de Dieu et sa façon de le faire n'importait que peu. Et rempli d'énergie et de complaisance, il entreprit d'accomplir lui-même l'office sacré. Ce n'était pas sa responsabilité. Mais parce que la situation l'éprouvait dans son agitation, dans son impatience, eh bien, il se força lui-même de faire ce qui lui était interdit et qui était réservé aux prophètes et aux prêtres. Je continue. Le Seigneur possède ses instruments choisis, en parlant d'être humain ici. Et s'ils ne sont pas discernés et respecté par ceux qui s'occupent de son œuvre, si les hommes se sentent libres de mépriser les commandements divins, on ne doit pas les laisser occuper des postes de confiance. Ils n'écouteraient pas le conseil ou les ordres de Dieu donnés par ses instruments choisis. Comme Samuel était par exemple un instrument choisi de Dieu. Et Saül, dans l'illustration ici, réelle pour nous, avait pour responsabilité d'écouter les messages que Dieu communiquait par l'entremise de son instrument choisi, à savoir Samuel. Comme Saül, il s'empresserait d'accomplir ces personnes qui se sentent libres de mépriser les commandements divins. Comme Saül, il s'empresserait d'accomplir une œuvre qui ne leur a jamais été confiée, et les erreurs qu'ils commettraient en suivant leur propre jugement humain placeraient l'Israël de Dieu dans une situation où leur chef ne pourrait pas se révéler à eux. Les choses sacrées seraient mélangées au profane. Voilà le grand danger lorsque nous nous chargeons d'une œuvre et d'une responsabilité qui ne nous a jamais été confiée. Quel est le danger? Les erreurs qu'ils commettraient en suivant leur propre jugement humain placeraient l'Israël de Dieu, donc l'Église, le peuple de Dieu, l'Israël moderne, le placerait dans une situation où leur chef, avec un C majuscule, Jésus, ne pourrait pas se révéler à eux. Pourquoi? Parce que ils ont obscurci l'instrument choisi en se réservant une responsabilité que Dieu ne leur a jamais confiée. Et dans ce cas-ci, dans de telles circonstances, ce qui se passe, c'est que Jésus, le chef de l'Israël de Dieu, ne peut plus se révéler à eux. Les choses sacrées seraient mélangées aux profanes. Nous tirons ici des leçons de la vie de Saül. Nous tirons des leçons pour nous, des erreurs qu'il a commises. Et frères et sœurs, nous avons sérieusement besoin d'en tirer les leçons. Parce que lui ne les en a pas tirées. Mais il nous incombe à nous, sur qui les fins du monde sont arrivées, d'écouter attentivement, de tendre l'oreille. Pourquoi? Faire ce qu'il n'a pas fait. Nous voulons explorer cela. Je poursuis dans, encore une fois, Patriarches et Prophètes à la page 608 et au paragraphe 1 et 2. Si Saül avait, en ce temps d'épreuve, manifesté du respect pour les exigences divines, Dieu aurait pu accomplir sa volonté à travers lui, mais son échec prouva qu'il n'était pas apte à devenir le représentant de Dieu auprès de son peuple. Pourquoi? Il induirait Israël en erreur. Sa volonté, plutôt que la volonté de Dieu, serait la puissance dominante. Si Saül avait été fidèle, son royaume aurait été établi pour toujours. Mais puisqu'il avait échoué, le dessein de Dieu devrait être accompli par un autre. Le gouvernement d'Israël devrait être confié à un homme qui dirigerait le peuple selon la volonté du ciel. Quelle est la condition? Si Saül, en ce temps d'épreuve, avait manifesté du respect pour les exigences divines. Comment? En obéissant strictement à ce que Dieu avait dit par l'entremise du prophète Samuel. S'il avait fait cela, Dieu aurait pu accomplir sa volonté à travers lui. Mais en échouant, en manquant de faire cela, en ne faisant pas cela, en désobéissant, il prouva qu'il n'était pas apte à devenir le représentant de Dieu auprès de son peuple. Donc, nous ne l'avons pas encore vu, mais en choisissant un roi, Israël s'était détourné de Dieu, mais à travers Samuel, il avait dit à son peuple, vous avez fait ce péché, vous avez commis ce péché de demander un roi, de vouloir un roi, d'exiger d'avoir un roi comme toutes les autres nations, mais maintenant que vous avez péché comme cela, si toutefois vous obéissez à l'Éternel en étant attentif à sa voix, alors Dieu pourra vous bénir malgré cela. Et donc c'était le but de Dieu de, à travers le roi maintenant, qu'il aurait choisi de se choisir un représentant auprès de son peuple. À travers le roi maintenant, il voulait avant les guider par les juges, par les prophètes, comme c'était le cas avant, mais maintenant le roi devait être un représentant de Dieu auprès du peuple. Et donc, Dieu aurait pu accomplir cette volonté à travers Saül, mais son échec, l'échec de Saül, prouva qu'il n'était pas apte à devenir le représentant de Dieu auprès du peuple. Il induirait Israël en erreur, le peuple de Dieu. Sa volonté, plutôt que la volonté de Dieu, serait la puissance dominante. Sa volonté. Plutôt que la volonté de Dieu serait la puissance dominante. Lui qui régnait sur le peuple, si sa volonté de Dieu était la puissance dominante, sa volonté, pardon, était la puissance dominante, plutôt que la volonté de Dieu, il induirait Israël en erreur. Et donc après, nous disons que le choix serait sur David. Nous ne connaissons pas toujours toute la portée d'une épreuve. Il n'y a de sécurité pour nous que dans la stricte obéissance à la parole de Dieu. Toutes ces promesses comportent une double condition. La foi et l'obéissance. Dès le moment où l'on renonce à obéir à ses ordres, la source des promesses de l'Écriture est tarie pour nous. Nous ne devrions pas suivre nos impressions ni nous fier au jugement des hommes. Quelles que soient les circonstances, nous devrions nous attacher à la volonté révélée de Dieu et marcher selon son commandement précis. Dieu se chargera des conséquences. En demeurant fidèle à sa parole, à l'heure de l'épreuve, nous prouvons aux hommes et aux anges que dans les conjonctures difficiles, Dieu peut avoir confiance en nous pour exécuter sa volonté, honorer son nom et encourager son peuple. Donc, qu'apprenons-nous ici? Quelle leçon tirons-nous ici de cette chute de Saül? Ou plutôt du début de la chute de Saül dans cette présomption à Gilgal? Eh bien, d'une part, c'est que face aux situations qui nous éprouvent, au lieu de lâcher prise et de laisser libre voie à nos passions, qu'elle ce soit une passion d'impatience, une passion d'indépendance, une passion d'énervement, de colère, au lieu de laisser la libre voie à ces passions coléreuses, frustrées, angoissées, appréhensives, eh bien, nous devrions toujours nous rappeler que les circonstances qui sont difficiles, qui sont éprouvantes, Dieu les permet pour que nous puissions croître dans notre marche avec lui, pour que les grâces du Saint-Esprit puissent être multipliées en nous, puissent être affermies en nous. Alors que si nous laissons, nous livrons à nos passions dans la difficulté, dans la tentation, eh bien là, nous perdons cette opportunité. Cette opportunité devient un échec. Ce qui était une opportunité pour une victoire devient un échec. Et ici, je lis encore une toute petite phrase vis-à-vis de quelque chose qui nous donne une définition bien centrée, bien succincte de ce caractère de Saül qu'il avait manifesté et qu'il a ensuite développé. Saül s'était aliéné de la faveur de Dieu, mais il refusait d'humilier son cœur et de se repentir. Il pensait pouvoir compenser ce qui lui manquait en piété réelle par son zèle pour les formes du culte. Ça me rappelle très, très distinctement l'exemple de Laodicée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je viens de lire? Il pensait pouvoir compenser ce qui lui manquait en piété réelle par son zèle pour les formes du culte. Ça me rappelle aussi ce qui a marqué dans, je crois, 2 Timothée chapitre 3, ceux qui ont la forme de la piété, mais qui en renient la force et qui seraient en majorité dans le monde chrétien à la fin des temps. Et n'est-ce pas aussi le cas dans les milieux adventistes où il y a un attachement pour les formes du culte, parce que intérieurement nous pensons pouvoir compenser ce qui nous manque en piété réelle par ce zèle pour les formes du culte. C'était l'erreur de Saül. Hein, parce que il y avait le peuple qui était angoissé et au lieu d'encourager le peuple par des paroles spirituelles, en étant lui-même spirituel, en étant lui-même connecté à Dieu, d'une connexion vivante, eh bien, il entreprit simplement de faire la forme du culte, parce qu'il pensait que cette forme, comme pour les cultes religieux des autres religions, cette forme à elle seule allait pouvoir donner de l'entrain au peuple. Alors que non, il n'y avait rien, il n'y avait pas la bénédiction de Dieu là-dedans. Comme nous allons le voir d'ailleurs, pendant que nous procédons, que nous poursuivons. Et que lui dit, en rapport direct avec cela, qu'est-ce que Samuel lui a dit plus tard, vis-à-vis de cette attitude qu'il avait déjà commencé à manifester à Gilgal? Nous l'avons lu la semaine dernière, nous y revenons dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et c'était notre lecture biblique d'aujourd'hui. Plus tard, lorsque Dieu avait ordonné, encore une fois, un ordre, par lequel Dieu donnait cette opportunité à Saül d'obéir strictement au commandement de l'Éternel. Donc ici, après que Dieu ait ordonné à Saül, pour lui donner l'opportunité de se rattraper, de détruire Amalek de dessus la face de la terre, et que Saül est manqué à son devoir, encore une fois, et n'a accompli que partiellement l'ordre de Dieu en gardant vivant le roi Agag et en permettant au peuple de conserver le meilleur du bétail, après que ceci se soit produit et que Samuel l'ait pris au vif, la main dans le sac, comme on pourrait dire, eh bien, et que Saül s'en soit défendu en disant qu'il avait pourtant obéi à la voix de l'Éternel, quand bien même il n'avait pas entièrement obéi à la voix de l'Éternel, Samuel lui dit, verset 22, 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, « Alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel ?» Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Vous voyez, c'est directement lié à ce premier problème qu'il avait manifesté à Gilgal, que nous étions en train de méditer, où nous voyons que l'Holocauste en elle-même n'avait pas vraiment de valeur si elle était offerte sans un esprit derrière cette offrande. Comme nous l'avons vu, ça faisait partie. Dieu désirait, Dieu exigeait que son peuple se prépare son cœur et sonde son cœur pour se repentir de ses péchés pendant ces 7 jours d'attente où ils attendaient l'arrivée, la venue de Samuel. Je lis en lien avec cela dans Jérémie chapitre 7, où nous lisons que ce problème que Saül avait manifesté n'était pas un problème qui lui était uniquement personnel, mais bel et bien une condition du cœur que nous voyons reproduite à de très nombreuses reprises dans l'homme et illustrée dans le vécu et les expériences et les péchés d'Israël. Dans Jérémie chapitre 7, versets 21 à 28. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai point donné de commandement au jour où je les fis sortir du pays d'Égypte, touchant les holocaustes et les sacrifices. Mais voici ce que je leur ai commandé et dit. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple et marchez dans toutes les voies que je vous ordonne afin que vous soyez heureux. Voilà l'ordre. Voilà la direction que Dieu nous donne. Mais quelle a été leur réaction? De la même manière que Saül avait eu une réaction contraire, je lis. Mais ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, mais ils ont suivi les conseils, l'obstination de leur mauvais cœur, et ils se sont tournés en arrière au lieu de venir à moi. Depuis le jour où vos pères sortirent du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes. Je vous les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont roidi leur cou. Ils ont fait pire que leur père. Et tu leur prononceras toutes ces paroles, mais ils ne t'écouteront pas. Tu crieras après eux, mais ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, c'est ici la nation qui n'a pas écouté la voix de l'Éternel son Dieu et qui n'a point reçu instruction. La fidélité a péri, elle est retranchée de leur bouche. Vous voyez ici le contraste entre l'appel et la réaction. De la même manière que il y eut un contraste net entre l'ordre de Dieu et les agissements de Saül, ce qu'il a fait. Donc, quel est ici le conseil de Dieu vis-à-vis de cette disposition à s'attacher à des formes. Parce que ici, Dieu disait, ajoutez vos holocaustes et vos sacrifices et mangez-les. Mangez-en la chair. Vous avez tous ces holocaustes. D'ailleurs, si vous allez dans Ésaïe chapitre 1, nous voyons encore une fois ce problème qui est énoncé. Ésaïe chapitre 1, verset 11, où Dieu dit encore une fois aux chefs d'Israël qu'il appelle les chefs de Sodome, le peuple de Gomorre, « Qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, de la multitude de vos sacrifices ? Je suis rassasié d'holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux gras. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, ni des agneaux, ni des boucs. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes parvis ? Ne continuez plus d'apporter des offrandes vaines. J'ai en horreur les offrandes, le parfum, la nouvelle lune, etc. » Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont en charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, hein, Saül étendait ses mains, offrait un sacrifice, je cache mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute point, vos mains sont pleines de sang. Voilà la description d'un peuple, frères et sœurs. C'est important que nous prenions à cœur les avertissements de la parole du Seigneur. Voilà la description d'un peuple qui s'attache à des formes, mais qui n'a plus la force de la piété, qui n'a plus qu'un contenant à l'intérieur, il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Quand vous étendez vos mains, je cache mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, simplement des mots sur les lèvres, sans avoir l'élan d'une affection envers Dieu qui donne une puissance à la prière, qui fait que la prière est véritablement efficace. Pas la prière en elle-même, pas des prières. Il dit, ici, si vous le traduisez, il dit, j'en ai assez de vos cultes, j'en ai assez, je n'écoute pas, je me cache. Il dit quoi ? Que dit-il ? Quand vous étendez vos mains, vous dites, Dieu, nous te louons. Aujourd'hui, hein, dans le christianisme, nous te louons, Dieu. Nous prions à toi, nous chantons à toi. Nous t'offrons des sacrifices de louange. Il dit, je n'écoute point. Vos mains sont pleines de sang. Il poursuit, lavez-vous, nettoyez-vous. Ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions. Cessez de mal faire. Apprenez à bien faire. Recherchez la droiture. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, etc. Verset 19. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Etc. Et donc, quel était le conseil que Dieu donnait en contraste avec cette disposition à s'attacher à des formes? C'est ici la raison du titre de notre méditation. Il disait, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Obéir à la voix de Dieu. Non. Dieu ne prend pas plaisir à ce qu'on obéisse, à ce qu'on offre des holocaustes et des sacrifices. Il prend plaisir à ce que l'on obéisse à sa voix. Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Être attentif, c'est important. Obéir, c'est important. Mais offrir à Dieu des sacrifices de ma présence, des sacrifices de mes actes de lèvres, ça, dit-il, ce n'est pas indispensable. Dans le sens où ça, sans la motivation d'obéir à la voix de l'Éternel, cela perdra son sens. Et donc, La question que l'on se pose, qui est simple, c'est quel sacrifice Dieu recherche-t-il? Il dit, est-ce que l'Éternel prend plaisir aux sacrifices et aux holocaustes comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Il dit, obéir vaut mieux que sacrifice. Et vous allez avec moi dans le psaume 50, où nous permettons ici à la parole de Dieu de prendre son ampleur et de prendre son relief, parce que nous sommes appelés à interpréter la parole de Dieu, à permettre à Dieu d'interpréter sa propre parole par sa parole, à chercher dans la Bible les interprétations des passages qui autrement seraient étroits de leur sens et leur signification. Dans le psaume 50, verset 7. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Je témoignerai contre toi, ô Israël. Je suis Dieu, ton Dieu. Je ne te reprendrai pas sur tes sacrifices, ni sur tes holocaustes qui sont continuellement devant moi. Je ne prendrai point de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs est en mon pouvoir. Si j'avais faim, je ne t'en dirais rien, car le monde avec tout ce qu'il renferme est à moi. Mangerai-je la chair des forts taureaux ou boirai-je le sang des boucs? Et là, verset 14, offre à Dieu le sacrifice de la louange. Mais quelle louange? Quelle louange? Est-ce simplement le fait de chanter? Est-ce la louange dont Dieu parle ici? Est-ce le fait de chanter? Est-ce le fait de exprimer des paroles qui comportent le mot ou un synonyme du mot louange? Est-ce cela la louange? Simplement, offre à Dieu le sacrifice de la louange et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et quand nous faisons cela, que se passe-t-il? Quelle est notre relation avec Dieu? Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Parce que lorsque nous écoutons Dieu, lorsque nous sommes attentifs à la voix de Dieu, pour obéir à la voix de Dieu, eh bien Dieu est attentif à notre cri. Qu'a-t-il dit à un autre endroit? Ceux qui m'honorent, j'honorerai ceux qui m'honorent. Si j'honore Dieu en faisant preuve, en manifestant du respect pour ses exigences, comme nous l'avons lu vis-à-vis de Saül, eh bien Dieu aura égard au cri de mon âme. C'est une relation réciproque. C'est important de comprendre le fonctionnement de l'amour de Dieu. Et donc, quel est ce sacrifice de la louange? J'y reviens. Offre à Dieu le sacrifice de la louange et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Pas simplement de dire, mais accomplis. Fais ce que tu as dit que tu voulais faire pour Dieu. Et ainsi, comme Jésus le disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, si vous me louez, si vous venez m'offrir le sacrifice de la louange pour que je sache qu'il est vrai, eh bien, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Si tu m'aimes, tu as exprimé que tu m'aimes, maintenant accomplis. Garde mes commandements, obéis à ma voix. C'est l'appel de Dieu. C'était l'appel de Dieu par Samuel au roi Saül. Mais il échoua. Il n'obéit point à la voix de l'Éternel. Mais le message demeure, c'est Dieu prend plaisir à ce que l'on obéisse à sa voix. Et il dit, obéir vaut mieux que sacrifice. Et être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Dieu prend plaisir, cela a une odeur agréable pour lui, lorsque ses enfants sont attentifs à sa voix, pour lui obéir. Pas juste être attentif pour obtenir des informations, pour agrandir son registre religieux, être attentif pour obéir au commandement de l'Éternel. Et ensuite, quand tu fais cela, tu as des difficultés, tu as des besoins, Dieu dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Encore, là, tu offriras un sacrifice de louange. Encore. C'est le cercle de la vertu de Dieu. Il est nourri par sa grâce. Offre à Dieu le sacrifice de la louange et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu me rendras la gloire, comme nous avons lu dans le premier ange d'Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donnez à Dieu la gloire. Comment ? Par cet amour vivant, cette dévotion, une foi agissante par l'amour, une foi où j'accomplis mes vœux envers le Très-Haut. Je les accomplis. Nous poursuivons. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 23 ? Celui qui offre pour sacrifice la louange, hein, la louange qui accomplit ses vœux envers le Très-Haut, la louange qui vivante, la foi agissante par l'amour, celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore. Et à celui qui règle sa voix, qui obéit au commandement, à la voix de l'Éternel. À celui qui règle sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Est-ce que l'obéissance est importante? Mais ici, parce que je le sens très bien venir, je le vois à 10 km, c'est aussi important de comprendre comment est-ce que nous posons la question ici, comment est-ce que Dieu adresse toutes ses exigences, comme notamment obéir au commandement précis. Comment Dieu adresse-t-il ses exigences au pécheur qui ressent la faiblesse de sa chair, au pécheur qui a commis le péché et qui a en son âme et conscience le fardeau de la mémoire des péchés qu'il a commis? Comment est-ce que Dieu adresse ses exigences à nous qui sommes pécheurs et qui avons fait l'expérience de notre incapacité à obéir à Dieu? Comment est-ce que Dieu maintenant va communiquer cette nécessité de l'obéissance au pécheur qui a ressenti en son fort intérieur son insuffisance vis-à-vis des exigences saintes et élevées de Dieu? Qu'est-ce qui motivera maintenant ce sacrifice de louange? Nous allons à la source maintenant. Dans le psaume 51, au verset 3 à 7. Voici le cri du pécheur qui ressent, qui est affligé de ce qu'il a fait à Dieu. Ô Dieu, aie pitié de moi, selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. Lave-moi parfaitement de mon iniquité. Et nettoie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras, et sans reproche quand tu jugeras. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, tu aimes la vérité dans le cœur. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse. Que les os que tu as brisés se réjouissent. Verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Autrement, j'en donnerais. L'holocauste ne t'est point agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Quel est le sacrifice qu'il désire? Quelle est maintenant la manière dont Dieu adresse ses exigences au pécheur qui est accablé par le sentiment de son péché? Eh bien, il dit, le sacrifice que je requiers de toi, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Il prend plaisir et il exige que nous ouvrions nos cœurs à son amour et sa compassion. Et il prend plaisir à ce que nous soyons dans cette condition de l'âme. Et c'est cela qui ouvrira nos lèvres pour que notre bouche publie sa louange. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va motiver cette louange? Ce sacrifice de la louange? C'est que Dieu a promis de nettoyer ses forfaits. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et comment répond-il lui-même à ces choses-là? Au pécheur qui ne sait que faire des exigences hautes et élevées de Dieu et qui reste accablé par le sentiment de son péché, vous lisez dans Ésaïe chapitre 1, verset 18. Il a dit, lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez de devant mes yeux le mal, la malice de vos actions, cessez de mal faire, apprenez à bien faire, recherchez la droiture, etc. Et il dit, comment est-ce qu'il s'adresse maintenant à cette personne qui réagit et qui dit, oh, tout ça, oh, mais Seigneur, j'ai tout fait ça. Il dit, venez maintenant et débattons nos droits, dit l'Éternel. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Qu'est-ce qui va nous mettre en capacité, nous motiver à obéir à Dieu? Il dit, tu as péché, mais quand tes péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Blanchis comme la neige. Blanchis où? Blanchis dans le sang de l'agneau. Mais quel agneau? Vous allez ici, dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Verset 7. Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Hein, nous savons. Christ. Et qui? Qu'est-ce qu'a dit Jean? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ici, je lis dans Hébreux chapitre 10. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. Ayant dit plus haut, tu n'as point voulu de victimes, ni d'offrandes, ni d'holocaustes, ni de sacrifices pour le péché, choses qui sont offertes selon la loi, et tu n'y as point pris plaisir, il ajoute ensuite, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit le premier sacrifice afin d'établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Verset 19. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous maintenant. Approchons-nous. Pourquoi? Parce que par le sang de Jésus, nous avons la liberté d'entrer dans le sanctuaire à travers ce chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers sa chair. Approchons-nous comment? Avec un cœur sincère. Un cœur contrit, n'est-ce pas? Le sacrifice qui est agréable à Dieu. Avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et au chapitre 9, Hébreux chapitre 9, verset 13, nous lisons dans la continuité, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Comment est-ce que je vais pouvoir servir le Dieu vivant et obéir à ses exigences divines de Dieu dans lesquelles il m'appelle à obéir à sa voix strictement? Le sang de Christ purifiera notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Le sang de Christ, frères et sœurs, il a cette propriété de non seulement couvrir nos péchés, comme nous le prions dans le psaume 51, mais aussi de purifier notre conscience des œuvres mortes, afin de quoi ? Afin d'obéir à la voix de Dieu, afin de servir le Dieu vivant. Le sang de Christ, il fera cela. Et c'est en vertu de ce sang-là que nous nous approchons de Dieu avec un cœur sincère et contrit et dans une pleine certitude de foi, ayant à cœur et nous inclinant à accomplir nos vœux envers le Très-Haut. Ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience, pour pouvoir servir le Dieu vivant. Voilà, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait examiner sur ce sujet, de la nécessité de l'obéissance et de la voie qui nous est ouverte à travers Jésus-Christ pour offrir à Dieu une obéissance qui lui soit acceptable. Donc nous avons vu aujourd'hui l'erreur qu'a manifesté Saül et ce que nous en apprenons vis-à-vis de la voie que Dieu a ouverte, ce chemin nouveau et vivant que Dieu a ouvert en Jésus-Christ, car Christ, notre Pâque, a été immolé, et à travers lui, nous recevons non seulement l'effacement de nos forfaits, de nos péchés, par lequel ce qui était cramoisi devient maintenant blanc comme la neige, mais Dieu aussi purifie nos consciences des œuvres mortes, de telle sorte qu'il lave, pour ainsi dire, à la fois le disque dur et la mémoire vive, et que si ces choses vous reviennent à l'esprit, et venons à Dieu avec la ferme assurance et une foi certaine que ces choses ne sont plus à nous, mais qu'elles sont bel et bien l'activité du diable, mais que Dieu a bel et bien accompli sa parole de purifier. Si nous avons saisi les cornes de l'autel, pour ainsi dire, pour nous saisir et nous approprier les promesses de Dieu, alors nous pouvons vraiment avoir cette assurance que Dieu a bel et bien accompli sa parole de purifier nos consciences des œuvres mortes pour nous donner la puissance et la disposition d'esprit avec Christ en nous d'obéir, de servir le Dieu vivant. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions retirer une bénédiction de cette méditation et que le Saint-Esprit nous accompagne et que nous soyons attentifs maintenant à la voix de Dieu pour obéir à la voix de Dieu plutôt que de simplement offrir les formes de culte de la religion, plutôt que d'offrir des sacrifices. Que le Seigneur vous bénisse et puissions-nous agir, offrir le sacrifice de la louange et accomplir nos vœux envers le Très-Haut. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.